Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Bienvenue dans Lionel Camus Talk, le podcast des énigmes de notre monde. Alors ça sera probablement ma dernière émission pour l'année 2016. Et je suis très content parce que pour cette fin d'année, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, il se trouve que j'ai travaillé depuis plus d'un an sur un projet de livre que je viens de terminer. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être lever le pied un peu l'an prochain, là, parce que c'est vrai que j'ai énormément travaillé cette année. Je vais peut-être essayer de dormir un peu plus la nuit, peut-être, je vais voir. Mais bon, je regrette pas du tout, parce que c'est vrai que quand on est passionné, de toute façon, on compte pas ses heures. Et surtout, je suis très fier de ce livre. Alors, c'est pas un roman, c'est un livre enquête. Ça s'appelle « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses aux USA ». Alors, de quoi parle ce livre ? Eh bien, chaque année, des personnes disparaissent dans les parcs nationaux et les forêts aux États-Unis. Alors vous allez sûrement vous dire, c'est normal que des gens disparaissent dans ces territoires sauvages. Certains se perdent, d'autres ont des accidents, et vous aurez raison. Sauf qu'il n'est pas du tout question de ce genre de disparition dans mon livre. Dans ce bouquin, je me suis penché sur des cas beaucoup plus mystérieux. Dans ces histoires, les personnes ont disparu dans des circonstances inexpliquées. Mais parfois elles étaient avec des membres de leur famille ou des amis. Ça paraît fou, mais c'est la stricte réalité, c'est terrifiant. Des personnes disparaissent en un instant. Parfois sous le nez de leurs proches, sans laisser de traces. Et on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est comme si, pouf, elle s'était dématérialisée en l'espace de quelques secondes. Et je vous parle pas de cas anciens, exceptionnels. Bon d'accord, il y a certaines affaires qui commencent à dater, mais d'autres sont très récentes. Souvent on n'a pas la moindre explication, et c'est terrible pour les familles privées de réponses. Dans de nombreux cas, on n'a jamais retrouvé aucun corps. Parfois les gens se retrouvaient morts, mais dans des conditions bizarres. Et même quand les histoires se terminent bien, ça arrive heureusement, il y a des zones d'ombre qui persistent. C'est un fait. Des hommes et des femmes s'envolent dans la nature, sans qu'on sache ce qui leur est arrivé. Beaucoup de récits se concluent sur un gigantesque point d'interrogation. Une chose est sûre, ces histoires sont d'authentiques casse-têtes. En effet, l'illogisme de certaines disparitions saute parfois aux yeux. À votre avis, un bambin de 2 ans peut-il marcher seul près de 20 km, traverser plusieurs chaînes de montagnes et des rivières? La réponse est dans la question. Pourtant, c'est arrivé dans l'Oregon en 1952. Si certaines affaires sont extraordinaires, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire, d'autres semblent plus banales, en apparence seulement. Car lorsqu'on étudie les faits avec minutie, on a parfois des surprises. Des détails ne collent pas. Les éléments sont absurdes ou illogiques. Le souci, c'est qu'en cas de dénouement heureux, les secours et les familles ne s'attardent pas sur ces points problématiques. L'essentiel est d'avoir retrouvé l'être aimé en vie, et le reste n'a plus d'importance. Je peux tout à fait le comprendre, mais dans le cas contraire, en cas de décès ou d'absence de nouvelles, ces détails prennent toute leur importance et deviennent autant de briques constitutives du mur du mystère. Quand on est face à des cas de disparition qui défient la raison, sans explication, on se retrouve totalement démuni. C'est pourquoi, à la fin de chaque récit, vous aurez un sentiment d'inachevé, je peux le comprendre. Je ne suis qu'un romancier passionné par les énigmes de notre monde, et je ne vais pas prétendre apporter la solution. Néanmoins, je vais oser aller plus loin. Confronté à l'inexpliqué, il faut, je pense, ouvrir en grand notre esprit. Sortir de notre zone de confort intellectuel et être capable d'envisager toutes les possibilités, même les plus inattendues. Car quand des disparitions ne sont pas normales, peut-être relèvent-elles du paranormal? En fait, l'idée du bouquin, c'est de raconter des histoires, donc des histoires vraies, des histoires sourcées, donc reconstituées à partir d'articles de presse, de dossiers, de rapports. Ensuite, faire des commentaires, des analyses. C'est-à-dire passer en revue toutes les possibilités, toutes les causes rationnelles. Mais quand on voit que les explications les plus courantes et habituelles ne sont pas satisfaisantes, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut même envisager l'impossible. En fait, l'idée est d'épuiser toutes les possibilités imaginables et de vous donner un maximum de clés afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion. C'est vraiment la philosophie de ce livre, c'est raconter des histoires vraies, authentiques, et après, vraiment faire une espèce de brainstorming pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Sachant que ce sont pratiquement toutes des histoires non élucidées, donc il n'y a pas de réponse définitive. Et voilà, moi je ne vais pas prétendre apporter la solution. Hein. J'ai juste émis tout un tas d'hypothèses qui me semblent envisageables, qui pourraient expliquer un peu ces événements très bizarres. Donc, Ce livre s'appelle « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses » donc aux USA. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire tirée de ce livre. Donc c'est une histoire qui, je trouve, est absolument passionnante, fascinante, dramatique aussi, malheureusement. Parce que voilà, c'est une histoire non élucidée, donc on n'a pas la clé de l'énigme. Donc cette histoire, c'est la disparition de Denise Martin. Donc une histoire qui s'est passée donc aux États-Unis, dans l'état du Tennessee, en 1969. Donc je vous ai expliqué un peu le principe du livre. Donc je vais vous présenter cette histoire en deux temps. Tout d'abord, vous exposer les faits. Donc je vais vraiment m'en tenir aux faits. J'ai reconstitué l'histoire à partir d'articles de presse, de rapports. Voilà. Donc, et ensuite, je vous ferai des commentaires. Je vais apporter quelques analyses. Voilà, pour essayer de vous éclairer un peu plus sur cette histoire. Voilà. Donc on démarre, on y va tout de suite. Donc on part aux États-Unis. On va remonter un certain nombre d'années en arrière, en 1969. Nous sommes le 14 juin 1969 dans les Great Smoky Mountains, le parc national le plus visité des États-Unis, à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Ce dimanche, on célèbre la fête des pères, et comme c'est la tradition chez les Martin, tous les hommes de la famille vont camper ensemble le week-end en pleine nature. Âgé de 6 ans, Denise Lloyd Martin est du voyage avec son grand frère qui a 3 ans de plus que lui, et aussi son père Bill et son grand-père Clyde. Tous les quatre font une randonnée jusqu'à un endroit appelé Spence Field, une grande clairière entourée par une forêt épaisse, à environ 1500 mètres d'altitude dans les Great Smoky Mountains. Le site, très sauvage, n'est accessible qu'à pied. Aucune route ne le dessert. Et il n'est pas rare d'y croiser des cerfs. Les Martins s'installent donc dans l'herbe pour pique-niquer en pleine nature. Denise joue avec son frère. C'est une journée magnifique. Et là, il se passe un événement surprenant. Une autre famille arrive à Spencefield et leur demande si leurs deux fils peuvent jouer avec ceux des Martin. « Bien sûr !» répond le père de Denise. « Venez !» Il leur serre la main et se présente. « Mon nom est Bill Martin. »« C'est drôle, nous aussi nous nous appelons Martin !» répondent les arrivants. Vers 16h cet après-midi-là, les jeunes décident de jouer à cache-cache à la lisière de la forêt, non loin de leurs parents. Monsieur Martin, qui exerce la profession d'architecte à Knoxville, Tennessee, est un père attentif. Tout en conversant, il surveille ses enfants, qui sont juste à une quinzaine de mètres. À un moment donné, il voit le petit Denis passer derrière des buissons. Quelques minutes plus tard, le jeu prend fin. Tous les enfants reviennent, sauf Denis. Son père et les autres se lèvent aussitôt, il appelle. Mais ils n'obtiennent aucune réponse. Envahi par un mauvais pressentiment, M. Martin pénètre dans la forêt. Il tend l'oreille. Il n'entend rien. Aucune trace de Denis. C'est comme s'il s'était évaporé. M. Martin aperçoit le célèbre sentier des Appalaches qui passe à 5 mètres de là et s'enfonce vers le sud du parc. Sans vraiment réfléchir, M. Martin se lance dans une course folle. Il dévale le sentier en scrutant autour. En bonne condition physique, il parcourt presque 3 km, mais Denis n'est nulle part en vue. À son retour, Bill envoie son père à Cates Cove, dans la vallée, pour prévenir les secours. Les park rangers sont réactifs. Ils se mobilisent rapidement avec des volontaires. Et dès 6 heures du soir, une centaine de personnes entament une opération de recherche et de sauvetage à Spencefield. Les coups du sort, le temps change brutalement et il commence à pleuvoir abondamment sur le parc. Les Smokies n'ont pas connu une météo pareille depuis des années. Plus de 6 cm d'eau vont tomber en un temps très court, et les précipitations vont durer plus d'une semaine. Résultat, les ruisseaux débordent et le terrain devient boueux. Ces conditions météorologiques exécrables compliquent énormément le travail des secours. À la nuit tombée, les rangers n'ont toujours pas localisé le petit Denis et ils suspendent les recherches jusqu'au lendemain. Lorsque le jour revient, le lundi 15 juin 1969, les recherches reprennent. Mais une brume épaisse couvre les Great Smoky Mountains qui portent bien leur nom, les montagnes enfumées. La visibilité médiocre cloue les hélicoptères au sol. Difficile de trouver des traces de pas dans les sentiers trempés. les chiens, quant à eux, ne détectent pas d'odeur. Mais le National Park Service ne lésine pas sur les moyens. Disons-le tout de suite, la disparition de Dennis Martin engendre la plus grosse opération de search and rescue de l'histoire des parcs nationaux aux États-Unis. Dans le courant de la semaine, plus de 1000 hommes fouillent le parc. Et un événement hors norme se produit. Un détachement de bérets verts de Fort Bragg, Caroline du Nord, investit la zone pour prêter main forte au secours. C'est très inhabituel. En effet, dans 99,9% des cas, lorsque des militaires participent aux opérations de sauvetage aux États-Unis, ce sont des membres de la garde nationale, c'est-à-dire des réservistes. Comme ils vivent dans la région, ils sont rapidement mobilisables. Si les membres de la garde nationale sont en quelque sorte des soldats du dimanche, les bérets verts sont eux la crème de la crème. Ils appartiennent aux forces spéciales de l'US Army. Ce sont eux qu'on envoie derrière les lignes ennemies en cas de conflit. Petit aparté pour ceux qui aiment le cinéma, John Rambo est un béret vert. Donc les bérets verts arrivent ainsi en hélicoptère à Spencefield. Personne ne sait qui a appelé ces soldats d'élite qui ont combattu dans la jungle au Vietnam. Apparemment, ils faisaient des exercices dans le coin et ils sont venus donner un coup de main. Leur attitude est cependant étrange. Ils mènent leur propre opération de recherche, restent à l'écart des autres équipes et ne communiquent pas avec elles. Et certains observateurs se demandent pour quelles raisons ils sont armés. Très vite, un agent du FBI de l'antenne du Tennessee fait également son apparition sur le terrain. Officiellement, il ne conduit pas d'enquête, mais se contente de monitorer l'opération, c'est-à-dire qu'il suit l'opération. Concrètement, l'agent fédéral rédige des rapports qu'il envoie ensuite en Virginie, à Quantico, où ils sont analysés par des experts en profilage. Vous voyez ça dans les séries, dans les films. Donc, les informations sont rentrées dans des bases de données, dans l'optique de trouver des affaires analogues et mettre à jour d'éventuelles séries criminelles. Il faut le reconnaître, les profilers du FBI sont les meilleurs au monde pour cette activité. Donc dans les Great Smoky Mountains, les jours passent et les recherches patinent. Dwight McCarter, le ranger en charge de l'opération, est dépassé. C'est un pisteur expérimenté, il a déjà secouru beaucoup de personnes égarées dans le parc. Et il n'a pas relevé la moindre empreinte du petit Dennis. Et les chiens n'ont détecté aucune odeur? C'est la compréhension totale. Comment un enfant de 6 ans a-t-il pu s'évanouir dans la nature en quelques minutes? Rien ne permet d'expliquer qu'un tel drame ait pu se produire. À moins que... Revenons sur l'après-midi du dimanche 14 juin 1969. Une heure environ après la disparition de Dennis Martin. Monsieur et Madame Key et leur fils se baladent dans le parc national des Great Smoky Mountains. En arrivant à Cate Coves, dans la vallée, ils ont demandé au bureau des rangers où aller pour observer des ours, et on leur a indiqué Roran's Creek, une zone sauvage à environ 700 mètres en dessous de Spencefield. Les Keys sont en train de marcher tranquillement sur le sentier montant vers Roran's Creek, quand soudain ils entendent ce qu'ils décriront comme le pire cri qu'ils aient entendu de leur vie. Un cri primal. À ce moment-là, le fils des Keys montre du doigt quelque chose dans la colline boisée au-dessus d'eux. « Hé, papa, dit-il, regarde, il y a un ours là-haut. » Monsieur Key plisse les yeux vers les arbres. « Non, ce n'est pas un ours, répond-il. On dirait plutôt un homme. » Un individu athlétique à l'aspect négligé. La silhouette semble vouloir se cacher derrière les arbres, comme pour ne pas les être vus. Un brin effrayé, la famille Key décide d'interrompre la promenade. Ils reviennent au parking où leur voiture est garée et rentrent chez eux. Notons qu'ils ignorent que Dennis a disparu. Lorsque le lendemain, M. Key apprend dans le Knoxville Times qu'on recherche Dennis Martin dans les Smokies, il repense à l'incident de la veille. Ce qu'il a vu pourrait avoir un lien avec sa disparition. M. Key lit dans l'article que le FBI monitore l'affaire et prend l'initiative de le contacter. Il appelle donc les fédéraux pour apporter son témoignage. Il leur explique ce qu'il a vu et leur fait la proposition suivante. « Retrouvons-nous là-bas, je vous montrerai où c'était. »« Non, » lui répond l'FBI, « d'où viendront chez vous ?» Monsieur Key raccroche, pour le moins surpris. Il aurait tout de même été plus logique que la police fédérale aille sur place pour bien visualiser les choses, éventuellement chercher des indices. C'est bizarre. Comme convenu, des agents du FBI viennent interroger Monsieur Key à son domicile. Ce dernier explique en détail ce qu'il a vu avec sa famille sur la colline. La silhouette qui ressemble à un ours et le cri qui leur a glacé le sang. Le FBI enregistre sa déposition, mais selon eux, ce qu'ont vu les Key n'a aucun rapport avec la disparition de Dennis Martin. C'est trop loin, ça ne colle pas avec le créneau horaire. Monsieur Key, qui ne partage pas cet avis, proteste, mais on lui fait comprendre qu'il ne doit pas insister. Monsieur Key est très contrarié, car son témoignage n'est visiblement pas pris au sérieux, ni par le FBI, ni par la presse. Il ne sera fait mention de son observation qu'une seule fois dans le New York Times, et les informations sont incomplètes. Dans les Smokies, les équipes de recherche se réduisent comme peau de chagrin, puis sont stoppées au grand dam de Monsieur Martin, qui est convaincu que son fils a été enlevé. Il connaît son fils mieux que quiconque, Denis n'aurait jamais fugué. De plus, il n'aurait pas eu la capacité de fuir si rapidement. Il n'avait que 6 ans. Tentative de la dernière chance, les Martin offrent une récompense de 5 000 $ à quiconque leur fournira un renseignement permettant de retrouver Denis en bonne santé. Les semaines s'enchaînent. Les chances de retrouver l'enfant vivant sont désormais nulles. On cherche désormais le corps de Denis. On fait venir des cadaver dogs, des chiens qui peuvent repérer des odeurs de décomposition à 2 km à la ronde. Mais ils font chou blanc. Dans l'espoir de localiser la dépouille de Denis, on va même jusqu'à observer les vautours et autres oiseaux charognards qui tournent dans le ciel. En vain. On trouvera juste un chien et un lynx mort. Mais l'histoire n'est pas totalement terminée. Profondément marqué par la perte de son fils, M. Martin ne s'est jamais vraiment remis de cette tragédie. Plus tard, il a même déclaré ne plus faire confiance aux autorités officielles ni à la presse. Et vous allez comprendre pourquoi. Lors de sa déposition de juin 1969, M. Key avait indiqué au FBI et aux journalistes que la silhouette aperçue dans la colline peu de temps après la disparition de Denis portait quelque chose sur son épaule. Mais cette information, pourtant d'une importance capitale, n'a jamais été publiée dans le journal. Pire, MacArthur, le ranger chef des recherches, a reconnu il y a quelques années que l'observation des Key était la meilleure piste dont il disposait, mais qu'elle n'a pas été suivie. M. MacArthur avait même refait le trajet à pied entre Spencefield et Rowan's Creek pour vérifier. Pour lui, les localisations et le créneau horaire étaient compatibles avec un enlèvement. Le FBI en a décidé autrement. Selon toute apparence, le bureau ne s'est pas contenté de suivre l'affaire. Et M. Martin a confié que le directeur du parc, avec qui il était en relation, n'avait pas vraiment de pouvoir décisionnel. Il appliquait des ordres venus d'en haut. L'affaire Denis Martin est décidément très opaque, et peut-être encore plus sinistre qu'on pourrait le penser. Dernier rebondissement en date, d'autres disparitions inquiétantes se sont produites ultérieurement dans les Great Smoky Mountains. À chaque fois, c'est le même agent du FBI qui a monitoré les affaires. Et devinez quoi? On a appris qu'il a fini par se suicider, juste avant son départ à la retraite. En dépit des efforts colossaux entrepris pour le retrouver, le petit Denis Martin a disparu sans laisser de traces. Presque 50 ans après les faits, on ignore ce qui est devenu de lui. Un médium s'est même penché sur ce dossier pour essayer d'aider les recherches. Il a contacté le NPS pour indiquer qu'il avait eu la vision d'une grotte, sans pour être plus précis car il faisait très sombre. Qu'est-il arrivé exactement à Denis Lloyd Martin le 14 juin 1969 à Spencefield? Cette question reste encore sans réponse aujourd'hui. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de la première partie de l'émission sur la disparition de Denis Martin en 1969. Donc, je viens de vous présenter les faits. On va se retrouver prochainement. Je vous apporterai des analyses, des commentaires sur cette affaire qui est absolument véridique et totalement inconnue en France. Donc, si vous voulez en savoir plus dès à présent sur cette histoire et aussi lire une vingtaine d'autres histoires, vous pouvez donc trouver sur Amazon « Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses » donc aux USA. Voilà, ce sont que des histoires totalement véridiques, absolument passionnantes, fascinantes. Voilà, donc je vous invite à aller dès à présent acheter le livre. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie de l'émission. Portez-vous bien. Peace.